Bonjour cher ami, nous allons continuer un message que nous avons commencé la dernière fois et qui s'intitule « L'attitude de gratitude ». Si vous avez raté le message précédent, vous pouvez le visionner sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Mais n'ayez crainte, ce message sera complet en lui-même. Nous parlerons de l'attitude de gratitude et de ce qu'elle signifie. Alors si vous avez une Bible, prenez-la et plongeons ensemble dans la parole.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Deuxième fait concernant un cœur reconnaissant. Un cœur généreux découle d'un cœur reconnaissant. Nombre 31 relate une histoire incroyable. Les Israélites vont se battre contre les Madianites. Les Madianites ont une armée bien plus nombreuse. Israël décide de prendre 1000 soldats, 1000 hommes de chaque tribu. L'armée d'Israël arrive avec ses 12 000 hommes et se bat contre les Madianites. Israël a été victorieux. Mais Dieu a fait quelque chose de très inhabituel au cours de cette bataille. Je voudrais vous lire Nombre 31, 48 à 52. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse et lui dirent: tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons, comme offrande à l'Éternel, chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande, par élévation, pesait 16 750 sicles. C'est énorme. 16 750 sicles. Plus de 270 kilos d'or. Soit une valeur d'environ 11 millions d'euros. Que se passe-t-il? Pourquoi une telle extravagance? Est-ce la contrepartie de la protection accordée par Dieu? Certainement pas. C'était la réponse d'un cœur reconnaissant. Une fois qu'ils ont réalisé l'ampleur de ce que l'Éternel avait fait, leur cœur a débordé de gratitude. Imaginez que les chefs de milliers d'hommes viennent voir leur commandant pour lui faire un rapport. Il leur demande: Ruben, combien d'hommes avons-nous perdu? Aucun, monsieur. Quoi? Personne ne manque à l'appel. Nous n'avons perdu aucun homme. Est-ce possible? Gad, au rapport. Monsieur, nous sommes tous là. Nous n'avons pas perdu un seul homme. Judas, nous sommes tous là. Ils ont parcouru toutes les tribus. Un silence sacré s'est certainement abattu sur eux lorsqu'ils ont réalisé ce que Dieu avait fait. Ils ne devront pas rentrer chez eux et dire à une seule femme: ton mari ne rentrera pas à la maison. Ils ne devront pas dire à un seul enfant: ton papa ne reviendra plus jamais. Alors qu'ils contemplaient ce que Dieu avait fait pour eux, quelqu'un a certainement pris la parole et a dit: je vais faire quelque chose, une offrande à Dieu. Je suis tellement reconnaissant. Quelqu'un d'autre a suivi. Puis finalement, ils l'ont tous fait. Ils savaient que l'offrande qu'ils devaient apporter était de 5 euros. Ils ont apporté 200 fois plus par homme. Pourquoi? Un cœur reconnaissant. Un cœur généreux découle d'un cœur reconnaissant. En Jean 12, Marie est là Et elle verse sur les pieds de Jésus un demi-litre de nard, ce parfum précieux qui vaut une année et demie de salaire. C'est un cadeau incroyable, extraordinaire et coûteux. Combien gagnez-vous en un an et demi? L'apporteriez-vous à l'église et le donneriez-vous? C'est ce qu'elle a fait. Elle a donné une année et demie de salaire. En Jean 12, pourquoi Marie? Peut-être parce qu'en Jean 11, Jésus a ressuscité son frère d'entre les morts. Sa réponse spontanée a été cet élan de générosité. Parlons de Zachée en Luc 19. C'est un collecteur d'impôts. C'est un vendu à la solde des Romains, c'est un traître. Tout Israël le déteste. Il est aussi de petite taille. Il ne voit pas au-dessus de la foule. Il réalise que Jésus arrive dans la foule et grimpe dans un arbre pour voir. Jésus s'arrête sous l'arbre et dit, « Zachée, je viens dîner chez toi ce soir, cela te convient-il ? » Zachée descend précipitamment de l'arbre et les gens disent, « Il est allé dîner chez un pêcheur. » Oui, Jésus est l'ami des pêcheurs. Parfois, il faut dîner avec les pêcheurs. Nous ne pouvons pas les atteindre sans interagir avec eux. Bref, Jésus s'y rend et Zachée dit, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Que fait-il? Payer la bonté de Jésus? Payer parce que Jésus l'a remarqué? Non, c'était simplement le débordement d'un cœur reconnaissant. Jésus est-il venu chez vous? Vous a-t-il remarqué? Vous a-t-il accepté malgré votre passé? Il l'a fait avec moi. La générosité est la chose la plus normale au monde. Elle découle d'un cœur reconnaissant. En Acte 28, Paul se trouve sur un bateau en direction de Rome. Avec 275 autres personnes, il fait naufrage. La Bible dit que les habitants de l'île les ont accueillis et traités avec bienveillance. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée d'une manière inhabituelle. Je vous lis Acte 28, 7 à 10. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et, à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Le verset 10 dans la version amplifiée dit « Ils nous ont témoigné le plus grand respect, nous ont offert de nombreux cadeaux et nous ont rendu de nombreux honneurs. Et lorsque nous avons pris la mer, ils nous ont approvisionné et mis à bord de notre navire tout ce dont nous avions besoin. » Ensuite, Acte 28:11 dit « Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. » Ils commencent par dire qu'ils ont fait naufrage. Ils étaient 276, l'apôtre Paul compris. Il est dit qu'ils ont été reçus avec amabilité pendant 3 jours. Combien d'entre vous pensent que recevoir 276 personnes pendant 3 jours est excessif? Cela fait beaucoup de nourriture, beaucoup d'hébergement. Cela demande énormément de temps et de services. C'est vraiment énorme. Nous venons de lire qu'ils ont embarqué sur un bateau alexandrin au bout de 3 mois. Au lieu des 3 jours d'hospitalité généreuse au départ, ces 276 personnes ont bénéficié de 3 mois d'hospitalité excessive sur cette île. Ils les ont bénis, ils leur ont donné, ils les ont honorés. Pourquoi ? Ont-ils payé pour la guérison du père de Publius ou pour la guérison de toutes les autres personnes? Non, les dons de Dieu ne s'achètent pas avec de l'argent. Vous ne pouvez pas acheter votre guérison. Vous ne pouvez pas acheter les bénédictions de Dieu. Non, 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 1000 fois non. Nous ne pouvons pas payer pour ce que Dieu fait pour nous. C'est simplement l'expression d'un cœur reconnaissant. La générosité est liée à la gratitude et vous ne pouvez pas séparer les deux. Les personnes généreuses sont généralement reconnaissantes. Une personne avare n'est pas du tout reconnaissante. Ces deux choses sont indissociables. Un ami à moi est allé en Roumanie à l'époque où ce pays était encore considéré comme le plus fermé du monde. Ceaușescu était le dirigeant de la nation à l'époque et son objectif déclaré était de transformer la nation en un pays athée. Les Bibles étaient interdites. Posséder une Bible était un délit passible de prison. La Roumanie a été le grenier à blé de l'Europe. Elle s'est appauvrie. L'Église a été sévèrement persécutée. C'était le pays le plus persécuté au monde à l'époque. Mon ami a décidé d'y aller. Il s'est procuré de nombreux Nouveaux Testaments dans leur langue et les a fait coudre dans la doublure de son manteau. Il aurait pu être emprisonné pour cela. Il m'a raconté qu'au moment de passer la douane, les douaniers ont déchiré sa valise et lui ont demandé « Monsieur, avez-vous caché des Bibles dans la doublure de l'un de vos bagages ?» Il a répondu « Non, je n'ai pas de Bible dans mes bagages. » Pendant ce temps, son manteau était rempli de Bibles. Il entre dans le pays. Au bout de quelques jours, il entre en contact avec l'église clandestine qui ne lui fait pas confiance. Il pense qu'il s'agit d'un espion du gouvernement qui doit révéler où ils se rencontrent et qui ils sont afin de tous les emprisonner. Ils finissent par comprendre qu'il est honnête, qu'il a traversé le monde tout seul pour les encourager dans leur souffrance. Ils sont bouleversés. Il m'a raconté qu'il avait donné l'un des Nouveaux Testaments à un jeune homme. Le jeune homme manipulait ce livre comme s'il s'agissait d'une porcelaine ancienne et fragile. Il en a lu plusieurs pages, puis l'a rendu comme s'il allait se casser. Mon ami a dit « Non, non ». Il l'a regardé à nouveau, puis l'a rendu. Mon ami a dit « Non, c'est le tien, je te le donne ». Lorsque le jeune homme s'est rendu compte qu'on lui avait donné une Bible, c'était la première qu'il voyait. Il est tombé à genoux et a sangloté, sangloté et sangloté. Lorsque mon ami est parti, après les avoir encouragés pendant un certain temps, tous ceux qui vivent en Christ Jésus souffriront la persécution. Cela fait partie intégrante de ce qui se passe lorsque nous marchons avec Jésus. Tous les membres de cette petite église clandestine et secrète ont fait quelque chose d'extravagant. Ils ont rassemblé toutes leurs ressources et ont acheté du porc. Aucun d'entre eux n'avait même goûté à de la viande depuis des mois et des mois. Ils vivaient d'un régime de choux. Ils ont rassemblé tout leur argent et cela n'a suffi que pour acheter une portion de porc. Tous les bols étaient posés sur la table et tous les autres n'avaient que du chou, de l'eau et du sel. Son bol était rempli de porc. C'était à son tour de pleurer. Ils se sont rassemblés autour de lui. Ils l'ont fait asseoir à la table et ils ont commencé à chanter « Nous t'aimons de l'amour du Seigneur ». Il était bouleversé et ne parvenait pas à manger. C'était le cadeau le plus extraordinaire qu'on lui ait jamais fait dans sa vie. Pourquoi une telle extravagance? D'où vient une telle générosité? Elle vient d'un cœur reconnaissant. Vous vous êtes mis en danger. Vous avez importé clandestinement des Bibles pour nous. Vous avez parcouru le monde pour nous encourager dans notre foi. Nous sommes reconnaissants. On ne peut pas séparer les deux. Dernièrement, le troisième fait concernant un cœur reconnaissant, la gratitude et la générosité sont la réponse naturelle d'un cœur qui a été pardonné. En Luc 7, il est question d'une autre femme qui ressemble beaucoup à Marie, mais c'est une autre. Jésus a accepté une invitation à se rendre chez Simon. Simon est un pharisien. Il y prend un repas et cette femme se faufile dans la maison. Tout indique qu'il s'agit d'une prostituée. Il est dit qu'elle était une femme pécheresse. Elle se tient derrière Jésus alors qu'ils sont agenouillés et qu'ils prennent un repas à la manière typique de l'Orient. Elle se met à pleurer, lave les pieds de Jésus de ses larmes, essuie ses pieds avec ses cheveux et répand du parfum sur ses pieds. Simon observe la scène et se dit, « Si cet homme était un vrai prophète, il saurait quel genre de femme le touche. » Voici ce qui se passe dans l'histoire. Luc 7, 40 à 47. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit, à tous deux, leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Mon ami, nous avons été tellement pardonnés. Alors que nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Un pardon si étonnant nous a été accordé. Pour ma part, je n'ai pas oublié d'où je viens. Je me souviens de l'homme que j'étais avant que Jésus-Christ n'entre dans ma vie. Et je suis très reconnaissant. Je me suis levé tôt ce matin et j'ai pensé à une histoire que j'avais lue il y a des années. Une affaire qui est arrivée au bureau, pour ainsi dire, de la Cour suprême, il y a de nombreuses années. C'était en 1829. Il y avait deux hommes, George Wilson et James Porter. Ils ont volé le coursier des États-Unis et ont commis plusieurs autres crimes. Après un moment, ils ont été capturés, jugés et condamnés. Leur sentence était l'exécution par pendaison. La date de l'exécution était fixée. Monsieur Porter a été pendu comme prévu. Mais pas George Wilson. Il semble que certains de ses amis influents soient allés voir le président Andrew Jackson et les supplier de lui accorder sa grâce. Andrew Jackson a accordé la grâce à George Wilson pour qu'il n'ait pas à mourir pour ses crimes. Mais George Wilson a refusé la grâce. L'affaire a été portée devant la Cour suprême. Voici ce que la Cour suprême a écrit ce jour-là à propos de cette affaire. Le tribunal ne peut pas accorder au prisonnier le bénéfice de la grâce, à moins qu'il n'en réclame le bénéfice. C'est son droit, c'est sa propriété, et il peut l'accepter ou non comme il l'entend. Il a commis le crime. Il a été arrêté, il a été reconnu coupable et condamné. Le président, la plus haute autorité du pays, lui a accordé une grâce totale. Refuser la grâce, c'est choisir de mourir. Il a refusé la grâce. Certains penseront qu'elle est insensée. Qui refuserait la grâce après une condamnation à mort? Les gens le font tout le temps. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le salaire du péché est la mort. » Le monde entier est coupable devant Dieu. Le monde entier est condamné, mais Dieu a accordé le pardon par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Écoutez ces versets d'Ésaïe 55, 6 à 7. Ils sont prophétiques et se rapportent à Jésus. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. La question est, accepterez-vous le pardon ou le rejetterez-vous? C'est un cadeau. C'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. J'ai fait une digression lors du dernier service. Je pense au moment où j'ai été sauvé dans une petite mission de rue à Medford, dans l'Oregon, il y a tant d'années. Il y a probablement encore des gens dans le monde qui se souviennent de moi comme du Bayless Conley que j'étais il y a 50 ans. Ils se souviennent de mes crimes. Ils se souviennent des choses que j'ai faites. Ils me percevront peut-être toujours ainsi. Mais vous savez quoi? Si vous cherchez mon nom dans les registres du ciel, aucun péché n'y figure. Ils ont été annulés, lavés par le sang de Jésus. Après avoir été sauvé, j'ai réparé les torts que j'avais causés partout où cela n'allait pas causer plus de mal, partout où c'était approprié. C'est la bonne chose à faire, les Écritures l'enseignent. Mais encore une fois, c'était la réponse d'un cœur transformé. Bien que certaines personnes puissent me cataloguer d'une certaine manière jusqu'au jour de ma mort, Dieu ne le fait pas. Il me voit à travers son Fils, Jésus-Christ. J'ai accepté le pardon. Mes péchés ont été pardonnés et j'ai été lavé. Mon ami, c'est possible pour vous, où que vous soyez, où que vous regardiez. Si vous êtes sur le plaza, bonjour, je vous vois. En fait, non, mais vous me voyez. Où que vous soyez dans cet auditoire, un pardon vous est offert. Si vous êtes un fils prodigue ou une fille prodigue, loin de Dieu, Dieu n'est pas fâché contre vous. Il vous aime, mais vous devez recevoir le pardon. Il ne vous sert à rien si vous ne vous l'appropriez pas. J'ai mon téléphone ici. J'ai lu ces versets du livre des psaumes sur Israël un peu plus tôt dans le service. Si je disais, tenez, prenez mon téléphone, vous me le rendriez, mais je dirais qu'il est pour vous. Oh, pasteur, c'est cher. Oui, c'est cher. Je veux vous le donner. Non, je dois vous payer. Non, 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 c'est un cadeau. J'aimerais vous donner $100, c'est un téléphone coûteux. Non, non, ce n'est pas un cadeau si vous voulez l'acheter. Vous ne pouvez pas. Je vous en donne $50, c'est équitable. Oui, c'est équitable, mais c'est un cadeau, vous ne pouvez pas l'acheter. Pasteur, je dois vous donner quelque chose, je vais vous donner $20. Non, ce n'est plus un cadeau si vous essayez de l'acheter. Eh bien, je vous donne au moins $1. Je vous donnerai $1, il faut bien que je donne quelque chose. Nous ne pouvons rien donner pour gagner notre salut ou pour obtenir le pardon. Nous ne pouvons pas payer pour obtenir les bénédictions de Dieu. Nous pouvons réagir par gratitude et générosité après coup, mais ce n'est pas ce qui est à l'origine de la bénédiction. C'est strictement sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres ou par ce que vous faites, afin que personne ne se vante. Inclinez la tête et fermez les yeux un instant. Vous devez savoir que Dieu vous voit. Je m'adresse à quelqu'un ici. Si je devais décrire votre vie en ce moment, ce serait un énorme point d'interrogation. Vous vous posez des questions sur Dieu et sur la vie. Vous vous demandez où est la justice et pourquoi telle chose vous est arrivée. Un énorme point d'interrogation est écrit sur vous. Vous savez quoi? Dieu a des réponses qui satisferont votre cœur. Mais vous devez d'abord venir à lui. C'est une question de confiance. Il parle le langage secret de votre cœur. Au moment opportun, il répondra à vos questions. Je le sais parce qu'il l'a fait pour moi. Je n'étais pas prêt à recevoir les réponses à certaines d'entre elles. Il a été fidèle et a répondu à toutes ces questions. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » La Bible dit, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Vous avez peut-être connu mieux, fils prodigue, fille prodigue, et vous êtes retourné dans la porcherie. Dieu vous aime. Il vous aime. Dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le père a vu son fils au loin, il était en haillons. Il sentait la porcherie, mais le père est allé le prendre dans ses bras et l'a embrassé. Peu importe où il était ou l'odeur qu'il dégageait, il est rentré à la maison. Tout comme ce Père, notre Père fait preuve de miséricorde et de grâce à votre égard. Il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être en règle avec Dieu, rétablir la relation avec lui. Certaines relations sont importantes. La première est ma relation avec Dieu. La deuxième, c'est ma relation avec moi-même et avec ma propre conscience, en veillant à ce que ma conscience soit claire. Ensuite, il y a ma relation avec les autres et le fait de marcher dans l'amour envers les autres. Si ces relations sont bonnes, la plus importante est cette relation verticale. Vous devez être en règle avec Dieu et marcher avec Jésus. Ensuite, je dois être clair dans ma propre conscience, ne pas faire des choses qui violent ma conscience. L'apôtre Paul a dit, « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Ensuite, je dois m'assurer que tout va bien entre les autres et moi. Je sais que certaines personnes ne veulent pas être en règle avec moi, mais en ce qui me concerne, mon cœur sera droit envers eux. Si ces trois relations sont bonnes, la vie devient très douce.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.